Bonjour, alors avant de commencer ce message, je voudrais vous commencer par une annonce. J'ai reçu un message vocal de Nathalie, puis j'ai eu quelques secondes au téléphone, la femme d'Éric de l'Estrade. Éric, peut-être certains le savent, donc Éric est en réanimation depuis 2 jours suite à une grippe intestinale qui a connu une déshydratation. Donc là, il a été déshydraté, il a fallu qu'il rentre en réanimation. Il est très douloureux, il n'est pas bien. Les médecins ont vu quelque chose qui ne leur plaît pas au niveau de l'estomac. Ils ne savent pas trop, mais ils pensent à une occlusion. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Nathalie nous demande la prière. Et je vais prier. Vous pouvez évidemment vous joignez à moi en levant la main. Et puis pensez à prier. On prie ce matin dans votre semaine pour Éric. On va remettre Éric et sa famille au Seigneur. Ben Seigneur, on vient à ton trône de grâce. Mon trône, c'est là où il y a le Tout-Puissant qui peut agir, Seigneur. Il est plein de grâce et on te remet, Éric. Merci d'être particulièrement présent. Merci d'intervenir dans son corps, de le soulager, de le mener à la guérison. On te prie d'intervenir dans cette chambre de réanimation, Seigneur. Je te prie de conduire toutes choses. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, pour ta présence. Puis on te remet aussi, on te le met dans son cœur qu'il soit dans la paix. Puis on te remet Nathalie, ainsi que Léa, Enzo et Carl, toute la famille, Seigneur. Merci de prendre soin de toute cette famille. Et on te le remet, Seigneur, en ton précieux nom, Jésus. Alors, rebonjour. Alors, on voit que ce matin, je voudrais un peu vous parler du fait que dans nos vies, nous faisons tous face à des limites. Alors, on a nos limites personnelles ou des limites qui nous sont imposées. Certaines nous protègent, d'autres nous apparaissent un peu comme contraignantes, comme des impossibilités. Des fois, on a l'impression qu'on se retrouve un petit peu, vous voyez, quand vous arrivez devant une impasse, qu'il y a un panneau, voie sans issue. On est dans une impasse, mais des fois on a l'impression que nos vies peuvent se retrouver là-dedans. Ce sont des fois des impossibilités réelles. Si par exemple on vous donne un rendez-vous jeudi prochain à 14h, là je prends quelque chose d'anodin, hein, et puis qu'on vous redonne un autre rendez-vous à 20 km à la même heure, vous allez dire, vous pourrez dire le dicton bien connu, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des fois des choses qui sont impossibles dans nos vies, peuvent être à deux endroits à la fois. Il y a des choses qu'on peut s'empêcher nous-mêmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que des fois, dans certains domaines de nos vies, ben, ces domaines sont régis par ce panneau « voie sans issue ». Et puis on ressent ça de l'intérieur et on doit vivre avec, on ne sait pas comment faire. Et nous allons voir que dans la Bible, dans le récit biblique, des hommes et des femmes se sont trouvés dans cette situation impossible humainement parlant. Et on va voir comment Dieu est intervenu et agi dans cette situation, comment il s'est révélé et comment ces hommes et ces femmes ont réagi à la révélation de Dieu quand Dieu s'est révélé dans cette situation qui leur semblait humainement et qui était parfois humainement impossible. Et la Bible nous propose plusieurs histoires, mais il y en a une qui ressort comme un modèle de foi, c'est l'histoire d'Abraham. Et donc c'est à travers le récit, certains récits de la vie d'Abraham, qu'on va voir comment Dieu s'est révélé et comment Abraham a répondu à cette révélation. Excusez-moi. Donc on va commencer par lire l'histoire d'Abraham. Tout simplement, on va commencer au tout début, dans l'histoire de sa famille et de son appel. En Genèse 11, verset 27. Voici l'histoire de la famille de Terah. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Terah dans son pays natal à Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor Milca. Milca était la fille de Haran qui, outre Milca, avait une autre fille du nom de Jiska. Sarai était stérile. Elle ne pouvait avoir d'enfant. Terah partit d'Ur des Chaldéens, amenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Terah vécut 205 ans, puis mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Puis il parcourt tout le pays, puis quelques versets après, au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Donc là, on voit au début, quand il présente la famille d'où vient Abraham, Terah, on voit qu'il a trois fils, dont Abraham et Nahor, avec qui il va partir, puisqu'un autre de ses fils est mort. On voit d'où ils viennent, d'Ur en Chaldée, qui vont s'arrêter à Haran, et puis plus tard qu'Abraham partira. Ce sont deux centres, on voit de quelle culture ils viennent, ce sont des adorateurs de la lune, que ce soit à Ur ou à Haran. Et Abraham va passer d'adorateur de la lune à adorateur du Dieu qui a créé la lune et le soleil. Et puis, on voit qu'en dehors de ça, on voit tous les liens familiaux de chacun, mais on voit qu'aucune description n'est donnée d'aucun personnage de cette liste. On ne sait pas, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont durs, coléreux, généreux, courageux, est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres, est-ce qu'il est brun, roux, blond. On ne sait pas tout ça. À ce moment-là du récit, on ne sait pas. Plus tard, si on connaît l'histoire, on voit qu'il est souligné plusieurs fois que Sarah était une belle femme. Mais là, c'est rien dit. La seule chose qui est dite d'un seul personnage, c'est de Sarah. Et il est dit, au verset 30, « Sarai était stérile, elle ne pouvait avoir d'enfant. » C'est la seule chose qui est soulignée. Un petit aparté, je vais parler d'Abraham et de Sarah. À l'époque, ils s'appellent Abraham et Sarai. Plus tard, ils vont changer de nom. Peut-être que je vais souvent dire Abraham et Sarah, parce que c'est sous ces noms qui sont les plus connus. Hein. Mais voilà. Voilà. Donc, Sarai était stérile, elle ne pouvait avoir d'enfant. Voilà la seule chose qui est soulignée dans le début de cette histoire. Et on voit la suite, et on voit que finalement, quand Dieu appelle Abraham, il lui promet plusieurs choses, mais entre autres qu'il sera l'ancêtre d'un grand peuple, que toutes les nations seront bénies à travers lui, donc à travers sa descendance, et plus loin, qu'il donnera ce pays à sa descendance. Dès le début, on fait face à un gros problème. La généalogie d'Abraham souligne que Sarai est stérile, qu'elle ne peut avoir d'enfant. Et le Seigneur, l'Éternel, promet à Abraham d'être l'ancêtre d'un grand peuple, puis de donner le pays dans lequel il habite à sa descendance. Mais la mère de la future grande nation est stérile. Donc ça pose quand même, là, en termes d'impossibilité, c'est pas mal. Mais la mère de la future grande nation, mais dans la suite du récit, on va voir que Dieu va susciter une descendance, si j'ose dire. On pourrait même dire que c'est Dieu qui va engendrer son peuple, si on peut dire. Ce sera son œuvre dans laquelle il va enterrer ses serviteurs par grâce, avec et malgré leurs défauts. Mais ça va être l'œuvre de Dieu. Ça ne nous rappelle rien, tout ça. Et en tout cas, des gens avec qui et en qui Dieu œuvre avec et malgré leurs défauts. Ça nous rappelle un peu nos vies à chacun, je pense. En tout cas, ça me rappelle la mienne. Mais avant de continuer sur l'œuvre de Dieu, sur comment il va s'y prendre pour accomplir ses promesses dans cette situation qui semble bloquée, le texte de Genèse 12 nous décrit aussi la réaction d'Abraham à l'appel de Dieu. Mais on voit que Dieu se révèle à Abraham, il l'appelle, et ce dernier va croire à cette révélation et agir en conséquence, c'est-à-dire obéir. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre... Voilà. Et puis, on voit qu'après... Abraham part. Abraham, verset 4, partit comme l'Éternel lui avait demandé. Donc, on voit que Abraham va réagir par la foi, par l'obéissance. Imaginez, vous rencontrez un ami, vous commencez à parler avec lui, que ce soit au travail ou ailleurs, puis vous vous rendez compte, il vous dit à un moment, ben moi je suis végan. Et puis, ok, vous allez au restaurant, et puis là vous voyez la carte des restaurants, il y a du poisson, de la viande, des salades repas, donc vous pensez qu'il va choisir une salade. Peut-être même, s'il est vraiment jusqu'au bout de ses convictions, une salade sans œufs, parce que ça vient de la poule, sans fromage, parce que c'est fait avec du lait, il est végan. Et puis là, au moment, le serveur arrive et puis il dit « Un steak frites, bien saignant, s'il vous plaît. » Alors vous le regardez, « Je croyais que tu étais végan. »« Non, non, mais moi, tu comprends pas, je suis un végan croyant, mais non pratiquant. » Vous allez vous dire ah, « Personne ne dit ça. Hein? Les végans croyants, mais non pratiquants, ça n'existe pas. » Et pourtant, des fois, quand on demande aux gens « tu es croyant ?»« Oui, je suis croyant, mais non pratiquant. » ça veut rien dire. Dans la Bible, ça n'existe pas. Quand on croit, est-ce qu'on croit vraiment ? Puisqu'on croit, on agit selon ce qu'on croit. Sinon, c'est que dans le fond, on n'y croit pas vraiment. Et ça, c'est la foi que Dieu demande dans nos vies, qu'il a demandé à Abraham et qu'il demande dans nos vies. Donc, cette relation de confiance, cette foi que Dieu, d'Abraham envers Dieu, est ce que Dieu attendait de lui, et on appelle cette relation la foi, et c'est ce que Dieu attend de tout homme qui se confie en lui. Et encore à notre époque, c'est la même chose. Dieu attend que nous mettions notre foi en ce qu'il a fait à travers l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous confions en lui, que nous répondions à son appel, que nous lui donnions sa vie. Donc Abraham quitte donc Haran, où il demeurait, et part au pays de Canaan avec sa femme et son neveu. Alors je résume rapidement, dans la Bible, il traverse différentes péripéties, une famine durant laquelle il se réfugie en Égypte, une séparation avec son neveu Lot, une expédition guerrière pour récupérer son neveu qui a été kidnappé, et à travers tout cela, il commence à connaître de plus en plus le Dieu qu'il a appelé. Et sa foi en lui grandit, une relation basée sur la confiance approfondie. Et au chapitre 15, les 6 premiers versets, Dieu se révèle à nouveau à Abraham, et il va se révéler comme son bouclier protecteur, celui qui le récompensera. Alors Abraham vient juste d'aller récupérer son neveu Lot en faisant alliance avec des rois, et donc Dieu lui a donné la victoire, mais malgré tout, il est, on va dire, minoritaire dans le pays de Canaan, il n'est pas en force. Et puis Dieu lui dit, ne crains rien, je suis ton bouclier protecteur. Dieu va prendre soin de lui pour accomplir ses promesses. Et puis la question de la descendance va revenir, on va lire le passage. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant et c'est Eliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Donc on voit que quand Dieu lui reparle de la descendance, par défaut, Abraham lui dit, oui, j'ai un serviteur Eliézer, mais je n'ai pas de descendance. Okay ? Par défaut, Abraham va léguer ses biens à son serviteur, car il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, non, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Et au verset 5, Dieu va appeler Abraham à sortir de sa tente, il va sortir de ses certitudes, de ses circonstances. Oui, sa femme est stérile. Il n'a pas d'enfant, mais là, Dieu le fait sortir de sa tente et l'amène à s'émerveiller devant le ciel étoilé. C'est comme si en le faisant sortir de sa tente, il le faisait sortir de ses impossibilités, de ses certitudes. Et il lui fait contempler le ciel étoilé. Je ne sais pas vous, mais déjà, moi, quand je contemple le ciel dans les Cévennes, ce n'est pas le désert du Moyen-Orient, mais par rapport à Nîmes, je trouve ça incroyable. Imaginez-vous un ciel du Moyen-Orient. Il paraît qu'on peut voir 8000 étoiles. Ça a dû être comptabilisé par les scientifiques, hein, mais c'est comme ça. Et là, Dieu lui fait entrevoir un avenir, une œuvre qui le dépasse. Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Non, Abraham n'était pas capable de compter les étoiles à une vue comme ça. Et il ajoute, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Le premier descendant n'est pas encore arrivé quand Dieu lui promet ça. Mais Dieu ouvre l'imagination d'Abraham. Et la foi se mêle à l'imagination. Dieu nous fait entrevoir des choses que nous saisissons par la foi parce que nous savons qui nous le dit. C'est le Dieu véritable qui nous a sauvés. Et le récit souligne qu'Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette relation de confiance envers l'Éternel est ce que Dieu attend de lui. Et cette relation de foi le met dans une relation juste envers Dieu. Abraham n'a rien à offrir à Dieu et Dieu lui demande juste de le croire. Et c'est encore valable de nos jours. Du temps de Jésus, à un moment, les Juifs autour de lui demandent « Quelle œuvre devons-nous faire pour accomplir la volonté de Dieu ?» Et Jésus leur répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé en parlant de lui-même. » Hébreux 11,6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc on voit que la foi est l'élément fondateur d'une relation avec Dieu, d'une relation juste avec Dieu, avoir confiance en Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Si on revient au début du chapitre 15, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision, ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Celui qui s'approche juste de croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. À la suite de cette déclaration, dont Dieu fait alliance avec Abraham, on ne va pas le lire. Alors juste une petite parenthèse aussi. Là, on parle de la foi d'Abraham. Là, je vous ai montré que des épisodes où Abraham fait confiance en l'Éternel. Mais même si ce qui caractérise la vie d'Abraham est la foi, il y a le chapitre 11, par exemple, des Hébreux, il y a 12 versets qui sont consacrés à la foi d'Abraham. Il y en a 6 à celle de Moïse, et la plupart des autres personnages ont un verset ou deux. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'Abraham qui le caractérise. Mais malgré tout, il n'est pas parfait, si vous lisez l'histoire. Et le texte le souligne à plusieurs reprises. Mais c'est un homme imparfait qui, à la fin, finit toujours par faire confiance en un Dieu parfait, qui ne se lasse pas de nourrir sa foi et de se révéler à lui. Ce Dieu qui nourrit toujours la foi d'Abraham, et à la fin, Abraham dit toujours oui à Dieu. En Genèse 16, le chapitre d'après, ça fait 10 ans qu'Abraham et Sarah sont en Canaan, et la descendance n'est toujours pas arrivée. Et Sarah et Abraham vont essayer de régler le problème par eux-mêmes. Sarah va proposer à Abraham sa servante Agar pour qu'elle ait un enfant par son intermédiaire, ce qu'on appelle aujourd'hui une mère porteuse ou une gestation pour autrui. C'était dans les coutumes du Moyen-Orient ancien. Et Ismaël va naître. Et cet essai de régler le problème par eux-mêmes, de faire la volonté de Dieu par eux-mêmes, va entraîner de la discorde entre Sarah et Agar, entre Sarah et Abraham. Et 13 ans après, Dieu va à nouveau se révéler à Abraham. 13 ans après cette désobéissance, Dieu va à nouveau se révéler à Abraham. Donc, si on compte bien, ça fait 10 ans entre Genèse 12, où il est appelé, où une descendance est promise, et Genèse 15, où Dieu se rappelle encore à lui en disant « Oui, tu vas avoir une descendance », encore 13 ans. Donc, depuis l'appel d'Abraham, il s'est passé 23 ans. Abraham n'a toujours pas la descendance. En tout cas, pas celle que Dieu voyait. Il en a une autre avec Ismaël, mais pas celle que Dieu prévoyait. Et on va voir au chapitre 17 comment Dieu à nouveau se révèle à Abraham. On va lire les 8 premiers versets d'abord. Qu'Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière entière, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu ajouta « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. » Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance avec toi de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et suis de sa descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. Donc on voit que Dieu se révèle à lui comme le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout. Et il appelle Abraham à marcher sous son regard de manière intègre, à être de nouveau un vrai croyant qui pratique ce qu'il croit. Ça intervient après l'histoire d'Ismaël, plusieurs années après. Et il lui rappelle à nouveau qu'il aura une descendance. Et on ne va pas lire là, on lira une suite, on ne va pas tout lire, mais un moment, et pour signe qu'Abraham et sa descendance appartiennent à l'Éternel, c'est les versets d'après, qu'il s'engage dans cette alliance, il lui est demandé de circoncire tous les garçons à l'âge de 8 jours, pour lui et pour sa descendance. Tous les gens de sa maison et pour la descendance future, tous les hommes devraient être circoncis, montrant par là qu'ils appartiennent au Dieu qui les a appelés et rachetés. Et puis, on continue au verset 15. Et là, Dieu va annoncer à Abraham que l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Verset 15, Genèse 17, on va lire jusqu'au verset 23. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois de divers peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna à nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Hé, quoi ? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. » Il rit, « Et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours et avec sa descendance après lui. » En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai, je lui donnerai de nombreux descendants, je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Donc on voit que quand Abraham se met à parler de Sarah, qu'il annonce qu'elle aura un fils, Isaac, il rit. Et là, on voit qu'Abraham, finalement, est en difficulté dans sa foi. Jusqu'au verset 15 qui concerne Sarah, Abraham pensait que sa descendance, multipliée à l'extrême, allait passer par Ismaël, l'enfant des efforts humains pour résoudre le problème de la descendance. Mais Dieu lui dit que ce sera par Sarah. Et même dans ce passage, c'est intéressant, Dieu semble racheter la part d'incrédulité dans la foi d'Abraham. Ce dernier n'en revient pas. 90 ans pour Sarah, qui est stérile depuis toujours et qui maintenant est ménopausée, 100 ans pour lui. Il ne peut s'empêcher de rire de la situation. Donc là, il rit intérieurement, on dirait, parce que contrairement à Sarah, plus tard, qui va rire vraiment. Et pourtant, Dieu va donner le nom d'Isaac, il rit au fils d'Abraham. C'est comme s'il comprenait et rachetait cette foi hésitante. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Abraham obéit, et le jour même, lui et tous les gens de sa maison sont circoncis. Une fois que Dieu parle, il obéit à Dieu. À la fin, le père de tous les croyants, c'est comme cela que l'apôtre Paul le nomme, met à nouveau sa confiance en Dieu. C'est intéressant ça, parce que ça nous apprend que Dieu comprend nos luttes. Et ce qui est important finalement, des fois, ce n'est pas la sincérité ou l'intensité de notre foi. On ne va pas mettre la foi dans notre foi. L'important, c'est à qui nous faisons confiance. Pour Abraham, c'est dans le Dieu Tout-Puissant. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est en Jésus-Christ que Dieu a mis sa toute-puissance, dans sa mort et dans sa résurrection. On ne recherche pas une foi parfaite, mais en nous confiant en celui qui est parfait, à notre place, celui qui est parfait à notre place, celui qui a tout accompli pour nous. Tim Keller, dans ses livres, il dit quelque chose, il prend un exemple intéressant. Il dit, imaginez-vous que vous êtes au bord d'une falaise, que vous tombez, que vous accrochez à une branche. Si la branche est solide, c'est ça qui va compter. Ce n'est pas parce que vous allez vous dire, je sais que ça va me tenir, je sais que ça va tenir, qu'elle va plus ou moins tenir. Ou si vous dites, j'espère qu'elle va tenir, c'est pas ça qui compte. Si vous dites, je sais qu'elle va tenir, que la planche est pourrie, que la branche est pourrie, eh bien, elle va pas tenir. Par contre, même si vous avez un certain doute, si vous tombez sur une branche solide, elle va tenir. C'est ce que Jésus-Christ est pour nous. C'est la planche solide de notre salut. Et ce qui est pas intéressant, ce qui est important, excusez-moi, c'est pas l'intensité de notre foi, c'est qui est Jésus. Et si on comprend tout ce qu'il a fait pour nous, on peut se fier sans problème en qui il a fait, ce qu'il a fait pour nous et qui il est. Et donc, finalement, Abraham et Sarah, qui ont 90 ans pour elle et 100 ans pour lui, ben on peut comprendre qu'ils aient ri, hein, humainement parlant, on peut comprendre qu'ils aient ri quand le Seigneur a annoncé que la descendance serait le fruit de leur union. Mais à la fin, ils y ont cru et ils ont agi en conséquence. On voit cela au chapitre 18. L'Éternel apparaît à nouveau à Abraham. En fait, Abraham voit trois hommes et la suite du récit nous fait comprendre qu'il y a deux anges et l'ange de l'Éternel. Et nous lisons du verset 9 au verset 15. Ils lui demandèrent alors, « Où est Sarah, ta femme ?» Donc il s'adresse à Abraham. Hein. « Elle est là dans la tente, leur répondit-il. » Puis l'un d'eux lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Excusez-moi. Donc, dans le passage qu'on a lu, on voit qu'il y a le rappel de la situation. Hein. Sarah, au verset 11, Or, Abraham et Sarah étaient tous deux âgés et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Donc, Sarah, qui avait été toute sa vie stérile et ménopausée. Puis, on voit aussi le réalisme de Sarah dans sa réaction. Réalisme par rapport à des circonstances humaines. Hein. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. Donc, il semblerait, d'après ce que Sarah dit, qu'il n'y a plus d'intimité entre Abraham et Sarah. Mais la réponse, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel, fait écho à la révélation de Dieu comme le Tout-Puissant qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est révélé à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Et puis là, il répond au rire de Sarah, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire de la part de l'Éternel ? Enfin, il répond à Abraham, mais il sait que Sarah est derrière et qu'elle entend. Et ce qui questionne l'Éternel, si je puis dire, car en réalité il sait toutes choses, il connaît le cœur d'Abraham et de Sarah, c'est que Sarah doute. Mais en posant la question à Abraham, y a-t-il quelque chose, pourquoi Sarah rit, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour l'Éternel, et que Sarah, et qu'il sait que Sarah entend, l'Éternel les interroge sur leur foi. Est-ce qu'ils la mettent dans les circonstances, leur âge dans ce cas-ci, ou dans le Dieu pour qui rien n'est trop extraordinaire ? Parce que dans la vie, on a toujours la foi. Vous êtes assis sur ces chaises parce que vous pensez que les quatre pieds tiennent. Si vous avez tiré une chaise, que vous voyez qu'elle bouge, vous allez regarder. Vous n'allez pas avoir confiance pour vous asseoir dessus. Quand vous prenez un bus, vous avez confiance que le gars qui conduit le bus, il a été formé, il a un permis et qu'il sait conduire. Si vous rentrez dans le bus, qu'avant, il arrive, hein, il commence à faire un drôle de trajet, de trajectoire, il freine juste, vous rentrez... Le gars, il vous dit bonjour, et puis il sent l'alcool, mais vous n'allez peut-être pas prendre le bus. Peut-être, je ne sais pas, moi je ne le prendrai pas en tout cas. Vous mettez votre confiance, vous prenez votre voiture, vous avez confiance que les freins vont répondre. Ben, dans la vie, c'est pareil. En fait, on fonctionne tous sur la confiance. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance. Mais à part que lui, au début, il est invisible, on se dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais c'est comme ça, c'est finalement toute la démarche de la vie chrétienne. Et là, Dieu demande à Abraham et Sarah de sortir de la circonstance pour lui faire confiance à nouveau dans ses promesses. Et finalement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont retrouver une intimité sexuelle malgré leur âge. Et Isaac va naître. Et on lit au chapitre 21, je ne vais peut-être pas projeter, je ne vais pas demander à Cédric de le projeter, je vais le lire en vitesse quelques versets. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait annoncé. Et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte, et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah Isaac. Il a ri. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront au mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour, Sarah allaiterait des enfants ?» Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Donc on voit, Sarah dit, alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Mais à ce moment-là, Sarah rit, mais de joie et d'étonnement, et non plus d'incrédulité. Dieu a agi, ils ont fait confiance en Dieu, et Dieu a accompli son œuvre. Et par Isaac, le début de la descendance promise par Dieu va commencer. Cela va donner ensuite Jacob, ses 12 fils qui seront à l'origine des 12 tribus d'Israël et tout le peuple d'Israël. Et on se retrouve 2000 ans après Abraham, dans une petite ville de Galilée, vous avez sûrement deviné, je pense, à Nazareth, où Dieu va encore se révéler comme le Dieu de l'impossible. On va lire l'annonce de Jésus, de la naissance de Jésus. C'est dans Luc 1, 26 à 38. dont c'est Marie avec l'ange Gabriel. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles et un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Au verset 34, on voit une question légitime de Marie. Ce n'est pas une question d'incrédulité, c'est une question légitime. Qui demande « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» On peut avoir parfois l'impression, du haut de notre 21e siècle, que les gens du temps de la Bible étaient naïfs, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de la science moderne, et donc ils acceptaient les miracles sans réfléchir. Mais même s'ils n'avaient pas eu des cours sur la procréation, même si elle ne savait pas comment techniquement le spermatozoïde féconde l'ovule, elle savait quand même qu'il lui fallait s'unir à un homme. Elle n'était pas plus bête que nous. Et pour être enceinte, il fallait s'unir à un homme. Et ce qui va la convaincre, ben c'est la réponse de l'ange à sa question. Il va lui répondre. D'abord, il lui dit que la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. Il présente Dieu comme le Tout-Puissant. Et surtout, après, il lui répond aussi en lui annonçant que sa cousine Élisabeth, stérile toute sa vie et ménopausée, attend un enfant. Et cela doit certainement faire écho à l'histoire d'Abraham et Sarah, que Marie connaît, parce qu'elle connaît l'histoire de son peuple. Et la conclusion de l'ange est, car rien n'est impossible à Dieu, qui répond à la fois à la grossesse d'Élisabeth malgré son grand âge et à celle qui va lui arriver, ben ça fait écho, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire de la part de l'Éternel ? Ça nourrit sa foi à nouveau, car rien n'est impossible à Dieu. Et la réponse de Marie, c'est, je vais la relire, excusez-moi. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Donc on voit que Marie répond dans la foi en ce Dieu à qui rien n'est impossible. Et encore de nos jours, Dieu s'attend à ce que nous répondions par la foi à sa révélation, à qui il est, à ses promesses. Nous pensons parfois que cela concerne de vieilles histoires dans la Bible. Alors, on est chrétien, on va pas le dire, on va le passer intérieurement. Oui, mais pour moi, c'est pas pareil. Moi, ma situation, elle est vraiment trop compliquée. Comme Abraham qui rit intérieurement. On a l'impression d'être une voie sans issue, dans une impasse, comme je l'ai dit au début. Mais peut-être que ce matin, Dieu est en train de parler à certains. Peut-être qu'il attire quelqu'un à lui. Peut-être que tu peux te dire, moi je ne peux pas venir à Dieu, ce n'est pas possible. Mes erreurs passées, mon péché, il me pèse comme un fardeau où que j'aille, ça me colle à la peau. Peut-être que tu peux penser aussi que ton cœur est trop dur, trop encrassé par de mauvaises habitudes. Et c'est peut-être que le Seigneur est en train de mettre de la lumière dans ton cœur. Ce matin, par les louanges, par la prédication, c'est comme quand on rentre dans une cave, qu'on met un peu de lumière. D'un coup, on voit tout le désordre, s'il n'est pas rangé depuis des années. Le désordre, il était déjà là. C'est juste que la lumière permet de le voir. Et on va pouvoir commencer à ranger. On va pouvoir laisser le Seigneur agir. Ça te semble impossible, mais c'est possible à Dieu. Et vous savez quoi ? Dans la Bible, par exemple, il y a une histoire très intéressante. Il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui finalement va repartir triste parce qu'il a préféré se confier en ses richesses qu'en Jésus. Et puis Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile pour des riches d'entrer dans le royaume des dieux. Et puis ses disciples ne comprennent pas, parce qu'à l'époque, la richesse, c'est un signe de bénédiction. Ils pensaient que si tu étais riche, si les gens étaient riches, c'est que Dieu les bénissait. Ce n'était pas forcément le cas. Parce qu'on voit plus tard un homme qui s'appelle Zachée, qui était riche parce qu'il était malhonnête, mais qui lui va venir à Dieu, qui va se confier à Dieu. Donc la richesse n'est pas une impossibilité, mais Jésus dit que c'est un blocage. Alors les disciples, ils sont très étonnés, et ils disent à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Ah, si même les riches ne peuvent pas, qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, on n'a pas essayé de se transformer soi-même, de se sauver soi-même. Jésus nous invite à venir à lui, il t'invite à venir à lui tel que tu es, et c'est lui qui a tout pouvoir pour te pardonner et pour changer les cœurs. Peut-être aussi que tu es un chrétien qui souffre d'une culpabilité, parce qu'en ce moment, tu ne vois plus le pardon de Dieu, qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à te pardonner, mais en fait, tu n'as pas à te pardonner. À mettre la confiance en celui qui est tout puissant pour pardonner et vraiment croire à son pardon. Il y a des tas de situations comme ça. Peut-être que tu penses que tu es dans une impasse dans ton couple, que ton couple est mort. Jésus dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Tu peux venir à lui. Alors cela passera peut-être par une demande de pardon, peut-être par l'aide de conseiller spirituel ou conjugal, mais cela débute par une confiance mise en celui qui est la vie, qui peut susciter la vie dans des situations qui nous paraissent impossibles, qui nous paraissent mortes. Et on peut mettre toutes sortes d'impossibilités là-dedans, des relations brisées, des travails étouffants, des problèmes de santé qui vous semblent insolubles. Commençons à venir au Seigneur, faisons-lui confiance. Et laissons-lui se révéler dans cette situation. Laissons-le se révéler dans cette situation. Parce qu'il y a aussi un autre aspect des interventions de Dieu dans nos vies, c'est que nos vies, en fait, sont les lieux où Dieu va se révéler à nous, va nous inviter à venir à lui. Il ne va pas venir dans une idée parfaite, éternelle. Donc, il vient dans le concret de nos vies, ici et maintenant, dans nos problèmes. Et on voit que quand le Seigneur agit de manière miraculeuse dans la vie d'Abraham et Sarah, il a montré que c'était son œuvre à lui, mais il a aussi transformé Abraham d'intérieur. Il a appris à lui faire de plus en plus confiance. Et ce n'est pas moins un miracle de transformer le cœur des gens que d'agir dans des situations, que dans les circonstances. Les deux sont l'œuvre de Dieu. Donc faisons confiance en ce Dieu de l'impossible qui se révèle à nous et qui s'est manifesté en Jésus. On va s'arrêter là, on va prier. Seigneur, tu es en la personne de Jésus assis sur un trône de grâce. Tu as tout pouvoir, tu es assis sur le trône, et en Jésus, tu nous offres ta grâce. Que ce soit pour le salut éternel ou pour intervenir dans nos vies, Seigneur. Et tu nous invites à nous approcher de toi pour être secourus dans nos besoins, et te connaître, toi, le Seigneur à qui nous devons tout. Merci parce que tu es digne de confiance, Seigneur. Et apprends-nous à te faire de plus en plus confiance en ton précieux nom, Jésus. Amen.